Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Quand une personne est malade ou handicapée, sa famille se trouve souvent en première ligne pour la soutenir au quotidien. Et parmi ses aidants, on les oublie souvent, mais il y a des jeunes, des enfants, des ados qui accompagnent un parent atteint d'un cancer ou d'un handicap. Alors, qui sont-ils? Quelles conséquences pour leur vie? Comment aider ces jeunes aidants? Comment leur faciliter le quotidien? Nous sommes aujourd'hui pour en parler avec Françoise Elie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, directrice du réseau plurithématique SPES, l'ASPES, c'est ça?
L'ASPES, ça veut dire espoir en latin.
Et c'est un réseau de soins palliatifs et de support. Et vous êtes également fondatrice de l'association de jeunes aidants ensemble qui s'appelle JAD. Alors pourquoi vous vous êtes investie sur cette question, Françoise?
Alors, tout simplement parce que les réseaux de santé, tels que celui que je dirige, sont des équipes spécialisées au domicile, c'est-à-dire que nous intervenons en appui des médecins généralistes, des infirmiers libéraux et de l'ensemble de l'organisation de l'ambulatoire, dans ce qu'on appelle dans notre jargon des parcours de santé complexes. Donc, entendez par là des maladies graves, potentiellement mortelles, ou des maladies chroniques. Et bien évidemment, nous nous rendons au domicile, c'est-à-dire que nous allons dans le domicile résidentiel, chez vous, chez moi, et puis tous les lieux de vie, dans les EHPAD, dans les MAS, dans les FAM, donc dans tous les endroits où les gens vivent. Et depuis une dizaine d'années, j'ai pu constater une recrudescence, notamment de foyers monoparentales. En Ile-de-France, 2 familles sur 5 sont monoparentales. Si vous croisez l'incidence du cancer du sein chez les jeunes femmes de 30 à 40 ans, on verra le nombre d'enfants qui sont seuls avec des mamans en cours de traitement, parfois fatigués, parfois en difficulté pour mener des tâches de la vie quotidienne. Et donc, en fait, ce constat, issu de ma pratique de réseau de santé et de psychologue clinicienne, j'ai voulu en parler. Et je me suis dit, mais dans le fond, que se passe-t-il ailleurs qu'en France? Et quand j'ai fait une revue de littérature, je me suis aperçue eh bien, que la question des jeunes aidants, notamment en Grande-Bretagne, grâce à Saul Baker, est une préoccupation depuis une dizaine d'années. En France, ces enfants sont absents de nos statistiques, de nos études, de notre recherche, ils sont invisibles.
Donc nous allons les sortir de l'ombre aujourd'hui dans Priorité Santé. Nous serons aussi accompagnés d'une enquête qu'a faite Novartis et Ipsos, qui a fait la lumière justement sur ces jeunes qui veillent sur un parent proche. Et nous aurons Luc Barthélémy, le directeur de Clientèle Santé, tout à l'heure au téléphone, qui a travaillé sur cette enquête nationale sur les jeunes aidants. On attend vos témoignages, si vous êtes vous-même jeune aidant de moins de 25 ans ou si vous avez été aidant, racontez-nous ce que vous vivez, le temps que vous y consacrez, à faire quel type de tâches. On vous attend au 33 1 84 22 75 75 et sur Facebook. Et en fin d'émission, où en est-on de l'accès au traitement de l'hépatite C? En Amérique latine, nous retrouverons Luis Mandao depuis le sommet mondial sur les hépatites qui se déroule en ce moment même et jusqu'à demain au Brésil.
RFI.
Comment aider quelqu'un de dépendant? C'est une question que se posent les, pas moins de 10 millions de personnes en France, donc qui aident régulièrement un de leurs proches pour des raisons de santé ou de handicap. Mais on ne s'attache pas souvent à ces jeunes aidants aussi qui peuvent entourer cette famille et qui aident à leur niveau, donc ils font ce qu'ils peuvent pour aider un parent atteint d'une maladie grave ou d'un handicap. Alors je vais commencer par un témoignage d'Awa qu'on aurait beaucoup aimé avoir au téléphone, mais bon, elle a un examen ce matin. Alors elle témoigne depuis Ziguinchor au Sénégal. Elle nous dit: je me suis occupée de ma maman quand j'étais enfant. Elle a une maladie mentale. Avec mes sœurs, on veillait à ce qu'elle prenne ses médicaments. Comme elle refuse de les prendre, on les mettait dans une canette de soda et elle ne s'en rendait pas compte. Papa n'était pas à la maison, alors on n'avait pas le choix. Mais c'était compliqué. On était obligés de le garder pour nous parce qu'au Sénégal, les maladies mentales sont honteuses. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je fais partie des études. Je fais des études d'infirmière, mais je culpabilise de l'avoir laissé seule. Je suis l'aînée et je me sens coupable. Voilà les mots que Awa nous a écrits. Françoise Elienne, vous voulez réagir à ce témoignage?
Oui, alors peut-être pour pointer les études que fait cette jeune femme, elle fait des études d'infirmière. Et ce qu'on a pu constater avec Isabelle Brocard, qui est la cofondatrice avec moi du dispositif Atelier Cinéma Répit, c'est que les anciens jeunes aidants, très souvent, ont une orientation professionnelle du côté de l'aide, plutôt dans le social et toujours dans l'humain.
Comme si cette expérience personnelle avait marqué leur parcours de vie.
Ça marque leur parcours de vie et comme on peut le voir, pas forcément de façon négative, hein, ça oriente les choix. Ce que dit cette jeune femme, c'est que très souvent quand on parle d'aider un parent handicapé, on pense au handicap moteur et nous recevons depuis 4 ans beaucoup de jeunes qui accompagnent des parents atteints par exemple de troubles bipolaires où l'aide est tout aussi importante et essentielle que pour des parents handicapés moteurs.
Alors elle exprime aussi cette honte de s'occuper de cette maman qui a une maladie mentale. Est-ce que c'est un sentiment aussi partagé par les autres jeunes aidants ?
Alors oui, mais peut-être pour des raisons différentes, hein, puisqu'elle le dit, au Sénégal, c'est compliqué, la place, ou en tout cas la perception qu'on a de la maladie mentale. Mais en tout cas, ce qu'elle partage avec l'ensemble des petits Européens, c'est que être aidant de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou de ses grands-parents, c'est quelque chose dont on ne parle pas à l'école, parce qu'on a peur d'être discriminé et qu'on a peur d'être moqué. Alors, c'est quelque chose qu'effectivement, on va rencontrer dans le discours aussi bien des enfants que des adolescents et des jeunes adultes. Être discriminé à l'adolescence, c'est absolument insupportable.
Oui, on veut tellement faire partie de la communauté.
Exactement.
Exactement. Ouais. Alors, pour la première fois pendant la journée nationale des aidants qui avait eu lieu le 7 octobre, donc vous avez fait la lumière un peu sur ces jeunes aidants. Est-ce qu'on peut estimer leur nombre en France ?
Alors, il faut toujours être très prudent. On pense, puisqu'en fait, on n'a pas d'études quantitatives, hein, même si, grâce, je pense, à l'action menée par Jade depuis 4 ans, le voile est en train de se lever sur cette question des jeunes aidants et qu'on va avoir aujourd'hui des travaux de recherche universitaires sur la question. On est encore aujourd'hui à dire, si on regarde ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne, il y aurait environ 500 000 jeunes aidants entre 8 et 25 ans. On a une seule donnée quand même statistique depuis 2015 en France qui a été publiée par l'Agence nationale de l'évaluation de la qualité des structures médico-sociales qui est aujourd'hui intégrée à l'HAS, à la Haute Autorité de Santé. Sur les, à l'époque 2015, où on annonçait 8,3 millions d'aidants, eh bien 11% avaient entre 16 et 30 ans, ce qui fait quand même plus de 913 000 jeunes aidants d'entre 16 et 30 ans. Voilà, on a toujours des difficultés à avoir des statistiques avant 16 ans. Et vous verrez dans l'étude auquel j'ai participé, où l'association Jade a participé, aux côtés de Luc Barthélémy, Gwenaël Tual, l'Association française des aidants et l'APF, vous verrez qu'il y a des difficultés méthodologiques pour aller interviewer des enfants en deçà de 13 ans, alors que par exemple cette année, nous en sommes à la 4e édition des ateliers Cinéma Répit, et la semaine dernière, on a accueilli 4 enfants qui avaient 9 ans.
Alors, effectivement, ils sont ados, ils sont plus jeunes, mais ils peuvent être enfants aussi. Ça fait partie de qui ils sont, quoi.
Bien sûr. Ouais. La semaine dernière, nous accueillons 12 enfants entre 8 et 13 ans. Voilà. Aidant principalement d'une maman, mais vous verrez, Luc Barthélémy vous le dira, mais c'est aussi ce qui ressort sur le plan statistique de l'étude nationale. Et jeunes, ils font beaucoup de choses. Ils aident à la vie quotidienne, ils aident à donner les médicaments, ils aident à s'occuper du plus petit, ils vont le chercher à l'école maternelle, ils lui font faire les devoirs si l'enfant est déjà au CP. Et puis, ce que les enfants mettent en avant très très tôt, c'est à quel point ils sont un soutien moral essentiel pour le parent dont il s'occupe.
Alors on va tout de suite prendre Osana qui nous appelle de N'Djamena au Tchad et qui a envie de témoigner puisqu'il est passé aussi par là. Enfin lui c'est un adulte donc qui à un moment était malade. Bonjour Osana.
Oui bonjour madame et bonjour aux invités.
On est ravis de vous avoir en ligne dans Priorité Santé Osana. On écoute votre témoignage.
Oui, je dirais que mon enfant est un tout pour moi. Un enfant qui a en peine 5 ans, mais qui pose des actes qui dépassent son âge. C'est tombé malade il y a de cela 7 à 8 mois. Mais l'enfant prenait vraiment soin de moi. quand sa maman partait au marché et me laissait à seul dedans, je me sens...
Ah ben alors, la ligne a rompu vraiment d'une manière brutale. Ossana, on vous a perdu. Mais donc, vous avez été malade, vous aviez le palu, hein, c'est ce que vous vouliez nous dire. Et votre enfant de 5 ans prenait soin de vous à ce moment-là. Et vous vous sentiez quand même en sécurité parce que justement, il faisait attention à ce que vous preniez vos médicaments. Il vous donnait même la bouillie dans la bouche. Donc, il a su être présent dès 5 ans. Donc, ça peut commencer très tôt, Françoise Elien.
Oui, alors... En France, on a pas, mais sûrement, on a décidé 8 ans parce que il fallait bien décider une limite d'âge ou un début de limite d'âge. Mmh. Hein. Mais ça, quand on n'a pas rencontré, mais c'est tout à fait possible.
Oui. Alors, c'est une vraie révélation quand même ce chiffre que vous avancez autour de 500 000 hein, de jeunes entre moins de 25 ans, parce que ils sont vraiment invisibles. On les entend pas ces jeunes. Ils font ça d'une manière toute discrète.
Alors, ouais. On les entend pas. Pour plein de raisons, d'abord des raisons sociétales, c'est-à-dire que le fait de prendre conscience qu'il existe des jeunes qui aident au quotidien, et vous verrez plus d'une heure par jour le parent malade ou handicapé, d'une certaine façon ça vient nous culpabiliser et c'est comme si nous entendions la présence de ces jeunes aidants comme étant la révélation d'une défaillance de notre système de santé, notre système social, voire de ce qui devrait être honoré par les autorités. Et donc, quand quelque chose nous gêne, eh bien, on fait comme si ça n'existait pas. C'est un processus que nous, les professionnels de soins psychiques, on connaît bien.
En même temps, ce système d'entraide au sein de la famille leur apparaît comme naturel.
Mais la première des difficultés, enfin, une des premières difficultés pour que ces jeunes soient entendus, c'est qu'ils ne se décrivent pas comme jeunes aidants. Pour eux, tous les enfants nous disent, mais c'est normal que j'aide mon frère, mon père, ma mère, malade, handicapé. C'est dans leur rencontre avec les autres jeunes aidants quand ils viennent aux ateliers Cinéma Répit, qu'ils prennent conscience que ce qu'ils font, tous les enfants du même âge ne le font pas. Et que c'est en même temps quelque chose qui leur apporte de la fierté, mais quelque chose qui est aussi difficile et qui peut impacter sur leur santé. Beaucoup d'enfants ont des troubles du sommeil. On a des enfants qui, un peu plus grands, se plaignent d'avoir mal au dos, etc. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont en même temps de la fierté. On est dans de l'ambivalence, mais on est dans de l'humain. Et en même temps, ces enfants ne peuvent pas être entendus parce que d'abord, ils ne se reconnaissent pas. Donc, première étape, leur donner la parole, qu'ils se reconnaissent comme jeunes aidants. Et ensuite, on espère, avec l'association que nous avons créée, pouvoir faire entendre au pouvoir public qu'il est aussi nécessaire qu'un jeune aidant bénéficie des mêmes dispositifs d'aide que les adultes.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur tout ce qu'ils font à leur niveau, ces jeunes aidants? Jusqu'où peut aller leur mission au quotidien?
Alors, les missions sont très variées. Ça peut être faire les courses, faire le ménage, aider au déplacement, aider la personne malade à marcher, à se déplacer, à aller dans la salle de bain, à aller aux toilettes, l'accompagner pour faire les courses, mais aussi beaucoup de ces jeunes, surtout quand ils sont accompagnants d'un parent malade, accompagnent à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital, ils vont dans les consultations médicales, ils vont chez le pharmacien. Ce sont des coordinateurs de soins, dans le fond, ces jeunes enfants ou ces adolescents ou jeunes adultes. Donc, si vous voulez, je pense qu'ils vont réaliser toutes les tâches qui nécessitent un appui parce que la personne, de façon transitoire ou de façon irréversible, ne peut plus accomplir. Et ça va jusqu'à des toilettes intimes, hein, où effectivement, en fait, on est comme ils n'existent pas, ils ne sont pas pris en compte et notre système de santé ne connecte pas deux informations. On sait, par exemple, qu'on traite une femme d'un cancer du sein. On sait qu'elle vit seule avec 3 enfants. Mais les équipes vont pas forcément se dire, mais dans le fond, mais comment ça se passe au domicile?
Oui, parce qu'au moment de la chimio ou autre, il y a un épuisement très, très fort.
Il peut y avoir une asthénie, il peut y avoir des effets secondaires, même si aujourd'hui, je dirais que la qualité de vie est meilleure qu'il y a 10 ans. Mais il reste néanmoins des symptômes qui vont créer de la fatigue, des nausées, donc on peut pas cuisiner quand on est nauséeuse en permanente, donc il faut bien que quelqu'un fasse la cuisine pour le reste de la famille, et donc dans beaucoup de familles, ce sont les enfants.
Et la peur aussi peut-être des enfants de sentir que la vie est en train d'échapper aussi peut-être à la maman, cette confrontation quand même avec comment ils le vivent psychologiquement.
Alors peut-être que
avec la maladie, la mort.
Ça c'est quelque chose qui fait une différence parce que les ateliers cinéma répit, on a choisi le cinéma parce que c'est un média artistique qui est non discriminant sur le plan culturel et scolaire. Ça nous semblait important. Et ce qu'ils expriment au travers la création de leurs films d'animation ou documentaires, c'est toutes l'éventail des sentiments et de l'ambivalence. Et c'est quelque chose qui est pour eux important. Et parfois, il faut qu'ils arrivent au temps du montage de leur film pour que le sens qu'ils ne comprenaient pas de leur existence leur apparaît par les séquences de montage.
Parce qu'on voit effectivement toute la difficulté d'être proche de quelqu'un de malade, mais en même temps, il y a aussi d'autres conséquences sur la vie des enfants. La maladie rapproche aussi dans la famille aussi des impacts positifs.
Alors ça, c'est ce qui se promène dans l'imaginaire collectif, tout comme la mort rapproche. Ben non, je suis désolée, très souvent, l'arrivée, l'annonce d'une maladie grave dans une famille, bien sûr, ça dépend de l'histoire de la famille, de ses possibilités, de sa plasticité de communication, mais ça disloque plutôt que ça rend solidaire. Ça, c'est des choses qui nous est c'est rassurant pour nous, bien portant, d'imaginer que même malade et que la mort, ça unit, etc. En fait, c'est rarement ce qu'on peut constater. Pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, auquel j'ai pas fini de répondre, il est évident que l'impact psychologique est très différent pour un enfant qui aide un parent avec une maladie, avec un risque létal, comme le cancer, les scléroses latérales amyotrophiques, etc. Parce que ça vient réactiver de l'incertitude. Et c'est beaucoup plus difficile pour les enfants, notamment dans la projection dans l'avenir. Ce sont des enfants, on le voit dans leurs films, qui ont plus de difficultés à se projeter dans l'avenir parce qu'ils savent très bien que la mort rôde et qu'ils peuvent passer de jeune aidant à orphelin. Et les orphelins sont un peu comme les jeunes aidants, ils ont disparu complètement de nos statistiques et de l'INSEE, comme les veufs.
Et quelles conséquences aussi sur l'école, par exemple?
Alors ça, c'est un vrai sujet. Là, nous sommes en train de travailler, bien évidemment, à la sensibilisation du personnel de l'éducation nationale. Avant tout, voilà, il y a des procédures, il faut être agréé par l'éducation nationale pour pouvoir accéder et rentrer dans les collèges et dans les lycées. Bien évidemment, évidemment, il y a des incidences scolaires, de l'absentéisme scolaire, des troubles de la vigilance et de l'attention qui sont liés au fait que, par exemple, quand je suis obligée d'accompagner ma mère en consultation à l'hôpital, et ben dans le fond, je suis pas en cours. Quand je me lève trois fois la nuit, je suis évidemment un peu plus fatiguée. Et donc, il y a un risque, bien évidemment, notable sur la scolarité même.
Et le chiffre qui m'a interrogée, c'est que 40% de ces enfants donc qui aident leurs parents à la maison n'en parlent pas à l'école. L'école n'est même pas informée de la situation de l'enfant ou de l'ado.
La question est qui devrait informer l'école? Est-ce que c'est le parent malade? Est-ce que c'est l'adolescent lui-même? Mais c'est ce que je vous disais. Je pense que on n'en parle pas. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être discriminés et qu'on se moque d'eux. Les enfants le mettent très bien en scène dans leurs films d'animation, notamment les plus petits, où ils disent à quel point c'est douloureux pour eux de savoir que ils peuvent pas inviter les copains à la maison parce que ils ont une sœur polyhandicapée ou une maman qui n'a plus de cheveux, qui est très fatiguée, allongée sur le canapé. Il y a ça, c'est-à-dire que ça fait aussi frein pour qu'il y ait une pénétration du monde social de l'enfant à la maison, comme de la même façon, les enfants vont faire des choix, ils vont plutôt ne pas les manger à la cantine et revenir tous les midis pour pouvoir faire manger leur papa.
Alors vous restez avec nous, hein, Françoise Hillien, vous êtes psychologue et cofondatrice de l'association de jeunes aidants Ensemble, donc qui s'appelle JAD. Comment soutenir ces jeunes aidants? On attend vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et on aura dans 3 minutes Luc Barthélémy, qui a mené l'enquête nationale sur les jeunes aidants pour Ipsos Novartis. On se retrouve donc dans 3 minutes après le flash.
Priorité santé, Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans Priorité Santé. Aujourd'hui, on parle des jeunes aidants. C'est ces jeunes de 8, 9, 10 ans jusqu'à 25 ans qui soutiennent un parent dans la maladie ou dans le handicap ayant l'essor de l'ombre, car ils restent trop souvent invisibles. Que vivent-ils au quotidien? Quelles conséquences sur leur vie? En quoi ont-ils besoin de soutien? Et aussi, comment continuer de profiter de leur jeunesse? Nous sommes aujourd'hui avec Françoise Elia, psychologue et directrice du réseau de santé plurithématique SPES, donc c'est le réseau de soins palliatifs et de support. Et vous avez également fondé l'association de jeunes aidants ensemble qui s'appelle JAD. Alors comment faire ressortir un peu ce que vivent ces jeunes? Eh bien, il y a une enquête Novartis Ipsos, c'est la première enquête donc qui a été menée cette année pour autour de ces jeunes qui veillent sur un parent proche. Et nous sommes tout de suite avec Luc Barthélémy. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de clientèle santé à l'Institut Ipsos, et donc c'est cet institut qui a réalisé l'enquête nationale, cette première enquête sur les jeunes aidants. Il n'y avait aucune étude qui existait en France en fait déjà sur ce thème-là.
Alors oui, effectivement, c'est une problématique qui n'avait jamais été explorée sur cette population-là. Il y a déjà eu des enquêtes qui ont été faites sur les aidants adultes en général, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune donnée statistique, un peu de référence sur cette population des jeunes aidants, qui est une population assez complexe à interroger, dans la mesure où c'est des jeunes qui peuvent être parfois même très jeunes, hein, à l'entrée de l'adolescence. Et donc c'est vrai que c'est un vrai challenge pour nous de pouvoir interroger cette population-là.
Et alors qu'est-ce que l'enquête révèle, Luc Barthélémy?
Alors l'enquête révèle plusieurs choses. Alors d'abord, évidemment que les jeunes aidants sont dans une situation relativement ambivalente en fait par rapport à l'aide qu'ils apportent. C'est-à-dire que c'est vraiment un positionnement par rapport à la personne aidée qui est souvent une personne très proche, hein, du cercle familial, de la famille nucléaire. Ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, ça peut être aussi évidemment les frères et sœurs quand il y a des fratries. Et c'est vrai que c'est une attitude qui leur demande beaucoup d'énergie, auquel ils consacrent beaucoup de temps. Ils leur apportent un soutien moral pour 61% d'entre eux. Ils gèrent les aspects de la maison pour 51% d'entre eux. Et donc évidemment, cet investissement a des répercussions sur leur parcours scolaire, des répercussions aussi sur leur vie sociale. Et en même temps, on s'aperçoit que ce ne sont pas des jeunes aidants qui sont dans la plainte ou dans l'apitoiement sur eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est des jeunes aidants qui sont en fait très dignes, qui ont conscience de faire quelque chose d'important, mais qui retirent également du positif de l'aide qu'ils apportent, parce qu'ils ont le sentiment de devenir mature plus vite ou de mieux comprendre les adultes. Et donc, ils sont un peu partagés entre cet investissement qu'ils font et qu'ils estiment être normal, en fait, par rapport à la personne qu'ils aident, et en même temps des conséquences parfois difficiles à gérer sur leur parcours scolaire ou voire même sur leur santé en fait, hein, parce que c'est aussi des jeunes, il faut le préciser, hein, qui se sentent plus souvent fatigués, qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à rester concentrés la journée à l'école, par rapport à ce que l'aide représente comme fardeau entre guillemets au quotidien.
Alors c'est vrai qu'ils évoquent cette présence, hein, auprès de leurs parents malades, mais pas que, il n'y a pas qu'une présence, ils font aussi des actes médicaux.
Bien sûr, ils font énormément d'actes médicaux. Alors, il y a 43% des jeunes aidants qui s'occupent d'aspects médicaux dans l'enquête. Ça va d'aller à la pharmacie, à assurer le suivi médical, à préparer le pilulier, voire même certains vont plus loin que l'acte médical, ils vont même dans l'intimité de la personne aidée, à travers la toilette, l'habillement, le fait de donner la douche. Donc on se rend compte de ce que c'est quand même pour un jeune, par rapport à sa mère, par rapport à son père, par rapport à son grand-père ou sa grand-mère, de rentrer comme ça dans l'intimité de ces personnes. C'est quelque chose d'extrêmement engageant émotionnellement évidemment, mais aussi physiquement, avec des responsabilités réelles en fait, hein, puisqu'ils sont aussi en contact avec les professionnels de santé qui sont chargés du suivi, que ce soit le médecin généraliste ou que ce soit l'infirmière à domicile. Donc on est sur des jeunes qui sont très tôt confrontés à des situations d'adultes en fait, hein, de par l'aide qu'ils apportent.
Oui, et du coup là, la moitié, ce que j'ai lu dans l'enquête, la moitié ont le sentiment de ne pas profiter de leur jeunesse. Hein.
Exactement. Alors effectivement, la moitié ont le sentiment de ne pas profiter de leur jeunesse, même si ils estiment en fait qu'ils n'en font pas plus que les autres. C'est-à-dire que il y a aussi cet attachement, et Françoise Elia l'explique très bien, c'est même elle qui est à l'origine de cette explication dans l'enquête, hein, qui a travaillé avec nous, sur la volonté de finalement ne pas s'exclure du groupe et d'essayer de rester au maximum un adolescent comme les autres, donc de ne pas montrer qu'on en fait beaucoup, même si effectivement c'est des privations, parce que quand vous consacrez par exemple plus de 2 heures par jour en semaine ou le week-end à aider la personne malade ou handicapée que vous accompagnez, forcément ça empiète sur vos loisirs, ça empiète sur le temps que vous passez avec vos amis, ça vous freine aussi dans le fait de pouvoir inviter des amis chez vous. Hein. Vous avez pas mal de jeunes aidants qui nous ont dit que ben voilà, ils n'osaient pas inviter des gens chez eux pour ne pas voilà, mettre à jour en fait cette intimité, cette situation de la personne aidée. Donc oui, c'est aussi une privation pour ces jeunes par rapport à leur quotidien et par rapport à l'âge qu'ils ont. C'est quand même un âge où on a envie de faire plein de choses.
Il y a d'autres craintes aussi, je vais interroger Françoise Hélien, là effectivement, on le voit aussi dans l'enquête, il y a la crainte d'être séparé de leurs parents.
Oui, bonjour Luc.
Bonjour Françoise.
Oui, ça fait partie des craintes, mais des craintes qui animent aussi les parents. Parce que tout au début de la création du dispositif Jeune Aidant Ensemble, donc de ces ateliers Cinéma Répit, puis de l'association, en fait, je vous l'ai dit, je suis partie de ma clinique et il y a eu une situation terrible. La maman avait un cancer du sein métastatique, elle avait deux enfants, 11 et 6 ans. Et globalement, la seule réponse que nous pouvions, nous, société, apporter au titre de la prévention et de la protection de l'enfance, c'était de placer ses enfants. Alors que dans le fond, on n'a pas d'études longitudinales sur les effets délétères de ces questions de l'enfant. Est-ce qu'il vaut mieux le placer? Vaut mieux ou ne vaudrait-il mieux pas renforcer les aides à domicile, envoyer des travailleuses familiales, des aides à domicile pour que les enfants puissent bénéficier jusqu'au bout des parents? Parce que ce que les enfants nous disent, ce que les enfants me racontent, c'est que c'est pour eux fondamental de profiter de tous les instants, et d'autant plus, vous le signaliez tout à l'heure, quand la personne malade, c'est mon père ou ma mère, et qu'il est atteint d'une maladie mortelle. Les enfants nous expliquent qu'ils sont comme des écureuils et qu'ils voudraient faire des réserves de noisettes, c'est-à-dire des réserves pour eux d'instants de sourire et d'amour de leurs parents, parce que ces réserves leur seront utiles à tous les moments importants de leur devenir d'adulte, au moment où eux-mêmes deviendront parents. Et donc, en fait, c'est une inversion du regard de notre société, c'est-à-dire que, bien évidemment, et c'est à respecter et c'est à entendre, qu'au titre de la prévention et la protection de l'enfance, nous pensions qu'ils sont mieux en famille d'accueil, en foyer, plutôt qu'auprès de ce parent qu'ils aident. Et Jade, ben, nous proposons un défi, c'est-à-dire donnons aussi d'autres moyens à ces jeunes pour qu'ils puissent et en même temps être aidants quand ils le souhaitent et retourner à leur vie d'enfant et d'adolescent.
Donc eux aussi bénéficient effectivement de soutien de la part d'adultes qui soient mis en place au domicile pour les aider, pour qu'ils puissent rester jusqu'au bout. Hein, près de leur famille. Oui, Luc Barthélémy, donc cette étude, est-ce qu'il y en aura une autre? Parce que c'est la première pierre d'un édifice.
Oui, tout à fait, c'est la première pierre. Alors c'est vrai que c'est ce que dit Françoise, il n'y a pas d'analyse un peu longitudinale de l'impact de cette aide. Et c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir suivre dans le temps. Après, c'est effectivement des impacts qui se mesurent sur le long terme. C'est-à-dire que nous, la photographie qu'on a à un instant T du vécu de ces jeunes aidants, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre aujourd'hui comment est-ce qu'ils vivent la situation. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a aussi interrogé des jeunes aidants en rétrospective, c'est-à-dire qu'on a interrogé des jeunes aidants qui l'ont été et qui ne l'étaient plus au moment de l'enquête, pour qui nous parlent un peu de la manière dont ils ont vécu aussi cet accompagnement. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir dans le temps comment évolue cette ambivalence en fait entre la fierté et l'importance qu'ils accordent à l'aide et les conséquences que celle-ci peut avoir aussi bien sur le bien-être.
Oui, et quels impacts aussi sur ces jeunes une fois adultes? Il y a pas d'études.
Exactement.
Françoise Hélien.
Non, mais ce qu'il faut savoir, et je pense la création de ce dispositif JAD depuis 4 ans, puisque c'est vrai que je le martèle, mais il faut bien prendre conscience que nous sommes la seule association de jeunes aidants, que ce dispositif existe depuis 4 ans et que nous avons besoin, comme il a été pensé et construit avec Gwenaëlle Tual de Novartis, Luc Barthélémy, l'APF et l'Association française des aidants, on a besoin de recherche. Pour ce faire, l'Association nationale Jeanne des jeunes aidants, nous avons passé une convention avec le laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'université Paris-Descartes, et il y a un énorme projet de recherche qui va sortir de ce laboratoire que l'association nous soutenons. D'autres projets de recherche issus d'une formation qui semble un peu particulière, c'est l'université de Nîmes qui propose la formation de designer social et environnemental. Donc au début, et pour en tout cas pour l'université de Nîmes, il y a une jeune doctorante qui est venue, qui vient à Jade et qui fera donc de son sujet de thèse la question des jeunes aidants.
Merci beaucoup hein, Luc Barthélémy d'avoir été avec nous en direct. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de clientèle santé pour l'Institut Ipsos et donc vous avez travaillé sur cette enquête nationale sur les jeunes aidants. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonjour, je m'appelle Cynthia. J'aide beaucoup ma mère qui est handicapée. Parfois, j'aimerais avoir des super pouvoirs.
Aïe, j'ai mal. Ça fait mal.
Bonjour maman.
Bonjour Cynthia.
J'arrive, maman.
Ah, je me sens mieux.
Des fois, ma mère a du mal à prendre des choses. Je voudrais l'aider.
Ma brosse, s'il vous plaît.
Waouh.
Merci beaucoup.
De rien. En vrai, je n'ai pas de sœur, mais j'ai des frères. C'est mieux d'avoir des sœurs, mais c'est pas moi qui choisis. Et je n'ai pas de super pouvoir.
Et aujourd'hui, on parle de ces jeunes qui aident leurs parents malades ou handicapés. Ils le font naturellement, c'est ce qu'on entend depuis le début de l'émission, mais ils n'osent pas trop en parler. Alors, comment aider ces jeunes aidants? Nous sommes avec Françoise Hélien, psychologue et directrice du réseau de santé SPES et fondatrice de l'association de jeunes aidants ensemble, JADE. Alors, voilà un extrait hein, des films d'animation que vous proposez, que vous faites avec ces jeunes. Alors là, je vais vous décrire un peu. Donc, c'est Cynthia, c'est vraiment une animation avec de la pâte à modeler, du dessin, voilà pour un peu l'histoire. Et donc c'est à travers cette créativité que les jeunes peuvent s'exprimer. C'est le filon que vous avez utilisé pour leur faire parler de leur quotidien.
Oui, parce que, hein, je vous le disais tout à l'heure, je pense que le média audiovisuel est un média qui est non discriminant sur le plan culturel et sur le plan scolaire, ce qui est important. En plus, c'est un côté un peu alléchant pour les jeunes. Et c'est vrai que ça leur permet de faire ce pas de côté, d'avoir cette petite distance qui va leur permettre de pouvoir exprimer et d'explorer un certain nombre de sentiments et d'émotions, parfois très contradictoires et très ambivalents. Donc, au-delà même que c'est un matériel qui est adapté en fonction de l'âge, puisque les plus jeunes, les 8-13 ans, vont réaliser un film d'animation. Il faut que vous sachiez que l'équipe JADE, ce sont des professionnels du cinéma, ce sont des animateurs BAFA, un psychologue qui est là tous les jours. Et donc, en fait, l'enfant va pouvoir exprimer, dire, pouvoir dire, sans crainte du jugement, parce que ce que les enfants apprennent en premier dans ces ateliers, hein, au jour d'aujourd'hui, on aura accueilli plus de 70 jeunes franciliens, parce que pour l'instant, ce n'est qu'en Île-de-France, c'est le bénéfice qu'ils ont de faire communauté entre eux. Parce qu'enfin là, la parole peut quand même se libérer. Et ils se donnent des trucs et des stratégies, ils inventent même des réseaux sociaux, et les relations durent au-delà des ateliers cinéma qui offrent deux fois une semaine à chaque tranche d'âge dans l'espace du domaine de Chamarande.
Alors on va tout de suite écouter Pierre qui est passé par là et qui nous a appelé au 33 1 84 22 75 75. Bonjour Pierre, vous nous appelez de Paris. On écoute votre témoignage.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je voulais, moi surtout vous dire de soutenir vraiment ces enfants-là, parce que ils n'ont plus d'enfance. Étant passé par là, j'ai assumé des responsabilités très tôt de ma famille, notamment bon, de ma défunte mère qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais je crois que votre invité, comme Monsieur Luc Barthélémy, je crois, non, j'ai essayé de retenir le nom, ont pratiquement tout dit. Ce n'est pas évident pour un enfant, par exemple, qui va à l'école et qui n'a pas d'équilibre, qui ne mange pas normalement, qui ne peut pas vraiment suivre des cours comme tout le reste, et qui somnole en classe, et qui n'a plus de vie, qui n'a plus de vie d'enfance. En un mot.
On entend, Pierre, vous êtes passé par là, ça vous accompagne encore aujourd'hui, cette époque vous a marqué.
Ah oui, cela m'a marqué. Jusqu'à présent, je ne suis plus. Je suis moi-même aujourd'hui grand-père. Hein? Et croyez-moi, je n'ai pas pu vraiment. Enfin, j'ai eu même mes deux premiers enfants. Donc je n'ai pas pu vraiment tout à fait assumer la responsabilité parce que ouais, je tenais toujours enfin à m'occuper effectivement des miens, de ma propre famille Ce qui fait que je me suis même marié, ça sans vous mentir, et je n'ai jamais voulu vraiment compter cette vie-là, cette partie de ma vie de responsable depuis très tôt, hein, à 6 ans, il fallait que je m'occupe par exemple de ma maman, et en même temps il fallait que je m'occupe effectivement de mes frères et sœurs.
Alors on entend bien, Pierre, merci beaucoup pour votre témoignage, ce qui ressort aussi, bon, vous avez beaucoup d'énergie, on l'entend aussi dans la voix, mais vous dites il faut aider ces enfants qui n'ont plus de vie d'enfant, c'est ce que vous faites avec l'association JADE, mais c'est vrai, comment les soutenir, comment les aider?
Alors je pense que si vous voulez, le dispositif JADE, c'est un moment de répit, un moment de création artistique. C'est un lieu, c'est un laboratoire en fait, le dispositif JADE, qui nous permet de recueillir les besoins, etc. Néanmoins, l'Association nationale JADE a d'autres objectifs, c'est de faire prendre conscience à la société, aux décideurs, aux financeurs, qu'il y aurait urgence à ce qu'il y ait des dispositifs qui permettent le maintien au domicile de personnes malades ou handicapées avec des aides professionnelles pour que les enfants, les adolescents, qui parfois ne subissent pas tous cette position d'aidant mais la choisissent, puissent le faire tous dans des conditions sécures et de qualité pour leur devenir d'adultes. C'est-à-dire que mon propos, nous sommes, le PLFSS 2018 a été voté à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une orientation définie par la ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, sur le virage ambulatoire. Eh bien, moi, je dis que dans le cadre de ce virage ambulatoire, il faut renforcer les aides, évaluer, inventer des outils, inventer des dispositifs, utiliser les dispositifs de coordination qui existent déjà au domicile, comme les réseaux de santé, pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes, un, on les entende, deux,
et qu'on les repère aussi, voilà, qu'on les repère,
les entende, parce que qu'on les repère.
Comment les repérer, puisqu'ils ne l'évoquent pas spontanément. Donc à partir du moment où une mère est malade, puisque c'est peut-être souvent le cas, ou un père, alors qu'ils sont dans un cadre monoparental et qu'il y a des enfants, on peut se douter qu'il y a besoin de soutien.
Bien sûr, mais il faut mobiliser aussi bien les établissements de santé que tous les services médicaux au domicile, mobiliser l'éducation nationale, mobiliser les directions de prévention et de protection de l'enfance, donc des services sous le pouvoir du conseil départemental. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser l'ensemble des acteurs de santé et du social qui peuvent rencontrer à un moment donné ces jeunes, en leur donnant les moyens de les repérer. Et puis ça, c'est une étape. Et l'étape la plus importante, c'est d'écouter ces jeunes, de comprendre ce dont ils ont besoin, et aussi de faire le pari que on est dans un cadre de prévention. La prévention fait partie de la stratégie nationale de santé. Et bien là, nous sommes dans un cadre de prévention des conséquences psychopathologiques sur ces jeunes aidants, qui, parce qu'ils n'auraient pas été assez aidés, comme le raconte Pierre, et bien ça impacte de façon quasiment irréversible leur vie d'adulte.
Oui, parce qu'il y a eu des études en Suède, hein, que j'ai vu dans la presse, comme quoi il y a quand même un fort taux de suicide pour ces jeunes quand ils deviennent adultes.
Oui, alors ce sont des données suédoises. En tout cas, nous sommes sur une population qui, pour plein de raisons, est une population plus à risque que une population tout venante d'enfants. Donc je pense que c'est un enjeu de santé publique que de les écouter, de former les professionnels pour les repérer et d'inventer des dispositifs qui par ailleurs existent. Hein, qu'est-ce qui est le plus coûteux pour un État? Est-ce que c'est le placement d'enfants dans des familles d'accueil, dans des foyers? On sait très bien que l'aide sociale à l'enfance, ça a un coût. Ou est-ce que c'est de permettre qu'il y ait des travailleuses familiales qui viennent au domicile, des aides à domicile qui fassent les courses, qui fassent à manger, ce qui permettrait peut-être que l'enfant puisse retourner plus facilement à sa vie d'enfant. Je pense qu'il y a un équilibre purement économique, hein, vous allez me trouver un peu consumériste, mais dans le fond, je pense que à terme, et très très tôt, l'État gagnerait de l'argent à renforcer le domicile plutôt que de se dire que la solution, une fois que la situation est dégradée, eh bien, il faille placer l'enfant.
Parce que quel genre de risque, effectivement, risque l'enfant qui a été aidant, hein, quand il devient adulte?
Alors, c'est très difficile, il n'y a pas d'études. Mmh. On sait qu'il peut y avoir des personnalités fragilisées. Hein, écoutez ce que dit Pierre, c'est-à-dire qu'on se sent toujours, par exemple, quand le parent qu'on aide est handicapé, polyhandicapé, donc pas avec un risque létal à court terme, on se sent toujours dans un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'on a du mal à mener, à construire sa propre vie, parce que d'une certaine façon, on se sent le responsable désigné de sa mère, de son père ou de son frère. On a beaucoup d'enfants qui accompagnent des frères et des sœurs autistes ou polyhandicapés, dont on parle pas plus. Hein. Donc je pense vraiment que la priorité, c'est de sensibiliser l'ensemble des professionnels qui peuvent rencontrer ces enfants, nous aider à les repérer et construire des réponses. Alors il y a des réponses que l'Assemblée nationale JAD va apporter, puisqu'on est en train de déployer le dispositif au national. Très prochainement, il y aura un JAD Occitanie, il y aura un JAD Nice, on a déjà un bébé JAD dans l'Aveyron. Voilà, donc nous voulons essaimer pour que ce dispositif, qui a une évaluation très positive, avec un taux de satisfaction, et y compris des parents, hein, dont les enfants s'occupent, que tous les petits Français puissent en profiter, et puis continuer le deuxième cheval de bataille de cette association, c'est mobiliser les pouvoirs publics et réfléchir à des réponses qui soient économiquement viables et qui soient le plus près des besoins des enfants.
Parce que vous écoutez justement ces enfants grâce à l'association JAD, puisque vous avez fondé cette association il y a 4 ans, vous les écoutez, alors quels enseignements vous en avez tirés ?
Qu'on pouvait pas penser à la place de l'autre et que on était dans une société tout à fait étonnante, c'est-à-dire que les enfants peuvent assister à des catastrophes, à des drames, la mort en direct tous les jours via tous les médias, mais que quand le drame se rapproche et que le drame frappe la porte de la famille, à ce moment-là, notre société fait que les enfants retournent à une place où ils devraient être, tant de l'innocence qu'il nous faut protéger, parce que ces questions de la mort, ces questions de la maladie grave, ça nous dérange surtout nous, adultes, parce que ça vient perturber, et réactiver notre sentiment d'incertitude. Donc, si vous voulez, je crois que c'est quelque chose qui, au-delà même des objectifs que je décris, que se s'est fixé l'association JAD, je pense que de reconnaître ces jeunes aidants, c'est aussi porter un autre regard sur cette jeunesse qu'on décrit indifférente, peu solidaire. Je peux vous dire que tout ce que je peux vivre auprès de ces jeunes témoigne totalement de l'inverse. Grande solidarité, les enfants ne se moquent pas les uns des autres, alors que parfois ils viennent de milieux culturels excessivement différents. Et ils nous apprennent, à nous les adultes, qu'ils sont capables de faire bien plus de choses que ce qu'on imagine.
Alors j'ai envie de lire le témoignage de Joseph John, hein, qu'on essaye de joindre à Port-au-Prince, à Haïti, qui voulait absolument témoigner, mais impossible de le joindre, la ligne est trop mauvaise ce matin avec Haïti. Lui, il dit « Mon père a eu un accident quand j'étais en classe de terminale, et il fallait que j'étudie beaucoup pour décrocher mon diplôme de fin d'études. Je suis l'aîné de la famille, alors je devais assurer ma responsabilité et rester à l'hôpital auprès de mon père. Mon père avait très peur de perdre son bras, alors pendant 20 jours, je suis allée tous les jours à l'hôpital, je suis restée à son chevet quand je n'avais pas cours. Je devais surveiller ses perfusions quand le sérum était vide, prévenir les infirmières, lui porter à manger. Je passais la nuit et j'allais ensuite à l'école. Préparer le bac et m'occuper de mon père a été un moment très compliqué et formateur. » C'est cette ambivalence. Il a mis en avant les deux, compliqué mais formateur.
C'est ce que témoignent tous les enfants et les adolescents, les jeunes adultes. C'est qu'il y a toujours une sorte de fierté qu'on peut comprendre, c'est-à-dire la valorisation parentale est quelque chose dont nous avons besoin pour grandir, avoir envie de grandir et se sentir avec une estime de soi à peu près correcte. Donc en même temps, c'est un double processus, c'est-à-dire que on se sent valorisé de faire ce qu'on fait, mais qu'est-ce que c'est difficile, et ça s'associe quand même à des pertes, hein, à des pertes de temps, des pertes d'assiduité à l'école. Voilà, c'est pour ça que je pense vraiment que penser ces questions, j'aurais juste donné un chiffre, et qui est un chiffre qui est complètement corroboré par une étude bruxelloise. J'étais à Bruxelles il y a 15 jours sur cette question des jeunes aidants. C'est que ça fait un jeune aidant par classe en France. C'est pas rien. Donc voilà, pour moi, c'est un enjeu de santé publique.
Merci beaucoup, hein, Françoise Hélien, d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui. Un jeune par classe, donc effectivement aux autres aussi d'ouvrir les yeux et de les regarder un peu autrement. Avec, juste pour terminer, aussi peut-être se sentir coupable, je pensais à ces jeunes, coupable aussi de ne pas être malade. Non ? Alors qu'ils accompagnent des jeunes malades, est-ce qu'il peut y avoir aussi ce problème ? D'être en bonne santé alors que sa maman, son papa, son frère ou sa sœur.
Oui, mais c'est pas vraiment ce qu'on rencontre le plus. Ils ont déjà beaucoup de sentiments entremêlés, chaotiques à gérer.
Alors donc, vous êtes psychologue et directrice du réseau de santé SPES, c'est le réseau de soins palliatifs et de support, donc en région parisienne, et fondatrice de l'association de jeunes aidants ensemble qui s'appelle JADE, un site internet où on peut aller.
Alors pour le moment, notre site internet est en travaux, donc je vous conseille plutôt d'aller sur notre page Facebook Jeunes Aidants Ensemble, qui, elle, est d'actualité, ou d'appeler au 01 64 99 08 59.
Merci beaucoup, hein, Françoise Hélien. Merci à toute l'équipe. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Demain, c'est un peu dans le bon prolongement de l'émission. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les vertus de l'espoir. Ce sera l'émission demain. À quoi ça nous est vital d'être plein d'espoir, de ne pas vivre désespéré pour réaliser ses projets au 33 1 84 22 75 75. À demain. Portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.